Je vous présente donc ce tour d'horizon que j'ai réalisé avec le ministre André Lamontagne. La discussion s'amorce sur l'annonce toute récente de l'initiative « Ma cabane à la maison », regroupant 70 cabanes à sucre de toutes les régions qui prépareront des repas, soit pour emporter, soit pour livrer, ou pour aller cueillir dans l'un des quelques 300 magasins métro du Québec.
C'est le fruit là, quand même de beaucoup de travail au cours des dernières semaines, des derniers mois, là, de collaboration puis de concertation avec les différents acteurs du milieu des cabanes à sucre, parce qu'on s'entend, il n'y a pas une chose comme une cabane à sucre au Québec. On a différentes entreprises qui exercent le travail des cabanes à sucre, mais ont un peu des profils différents. Alors, ça a été de voir, là, en su de toutes les mesures qui ont été annoncées depuis le début de la pandémie, là, par mon collègue Fitzgibbon, là, comment on pouvait venir encore accompagner un peu davantage là, ce modèle d'entreprise-là un peu là, qui est assez particulier. Puis ce qu'on a annoncé aujourd'hui, là, ça fait pas mal l'unanimité avec tous les joueurs. Là, c'est vraiment un travail collectif qu'on a fait. Fait que très heureux des annonces que j'ai faites aujourd'hui. Là.
Parlons particulièrement de l'initiative là, Ma cabane à la maison. Ça, vous soutenez cette initiative-là de façon à ce que des cabanes qui servent normalement des repas puissent opérer, ou en tout cas plusieurs d'entre elles puissent opérer là.
Oui, tout à fait. Puis c'est une initiative, honnêtement, qui est à la hauteur un peu de tous les défis qu'on a depuis le début de la pandémie. Les gens se réinventent vraiment là, pour être capables de se garder la tête en dehors de l'eau puis faire ce qu'ils aiment le plus au monde. Puis dans ce cas-là, bien, c'est mettre en valeur notre patrimoine de cabane à sucre puis que les gens puissent goûter à nos traditionnels repas de cabane à sucre. Ça fait qu'on a un nombre impressionnant de cabane à sucre. On parle d'à peu près 70 là, avec différents partenaires qui sont vraiment mis en collaboration là pour faire une boîte gourmande, si on veut, dans laquelle on va retrouver des mecs qui sont prêts à réchauffer ou prêts à cuisiner. Et puis, ben écoutez, c'est une initiative que nous, on supporte grandement. On a trouvé que c'était novateur, que c'était ambitieux. Puis, je vais être le premier, si on veut, là, à me faire livrer ma boîte.
Monsieur Lamontagne, si on fait un tour d'horizon rapide, là, on est toujours en situation fragile là, à cause de la pandémie. Il n'y a rien encore de définitivement réglé. Il y a des lueurs d'espoir, tout ça. Mais il y a des choses encore difficiles. Vous, vous êtes sur la lancée de plusieurs annonces que vous avez faites à la fin de l'été et l'automne dernier, jusqu'aux fêtes à peu près. Et là, vous êtes dans ce qu'on pourrait appeler la mise en œuvre de tout ça. Là.
Tout à fait. Bien, écoutez, ce qu'on a annoncé cet automne, sans compter ce qu'on avait annoncé avant, là, on met tout ça ensemble. Ça exige un arrimage important avec tout le secteur de la production, tout le secteur de la transformation. Alors, depuis les annonces, je fais toutes mes rencontres avec les différents secteurs en vue de la prochaine rencontre annuelle, entre guillemets, de la politique bioalimentaire qu'on avait repoussée là, l'an passé au mois de mai. Mais j'en profite de toutes ces rencontres-là que je fais à raison d'au moins 2 ou 3 rencontres par semaine avec les différents secteurs pour aussi s'assurer qu'on arrime toutes ces annonces-là qu'on a faites cet automne avec les plans d'action des différents secteurs qu'on rencontre. Alors, jusqu'à maintenant, la réception est très, très positive, que ce soit du côté de différents secteurs de production, que ce soit du côté des transformateurs, parce qu'un des défis qu'on a dans toute notre quête, si on veut, d'une autonomie alimentaire accrue, bien, naturellement, c'est d'accroître notre capacité de transformation, d'accroître la qualité de notre transformation pour être encore davantage qu'on ait des petites, moyennes et de nos plus grandes entreprises parmi nos 3 000 transformateurs du Québec qui aient encore davantage d'accès à des plus grands marchés, à des plus grands distributeurs. Alors, il y a une grosse partie de nos ambitions là, au niveau de l'accroissement de notre autonomie alimentaire, que ça passe par un accroissement de la transformation, puis une plus grande productivité de la transformation, puis qualité. Alors, il y a beaucoup de rencontres que je fais, là, puis encore cet après-midi, c'est encore, je suis là-dedans toutes les semaines avec différents acteurs, différents joueurs, des groupes, des entreprises et tout ça. Puis ça va être comme ça tout le printemps, là, parce que il y a vraiment un momentum, il y a une énergie qui est là. On a les fonds, on a les programmes. Alors, les planètes sont vraiment alignées là, pour faire en sorte que ceux-là qui veulent que ça bouge au Québec, là, on va être là puis on va tous bouger ensemble.
Et je me suis laissé dire, Monsieur le ministre, que vous demandez aux gens des différents secteurs de vous soumettre des projets, de vous soumettre des choses très concrètes qui pourraient être leur contribution, justement, à cet élan là, que vous souhaitez soutenir dans le secteur agroalimentaire.
Ben, M. Levac, ceux qui vous ont dit ça, là, c'est de sources bien informées. Parce que je fais ça, je veux dire, chaque semaine, je suis sur le téléphone, puis dans des teams avec, comme je vous dis, soit des entreprises ou des groupes. Puis ce qu'on veut savoir, c'est quoi vos plans, c'est quoi vos projets, qu'est-ce que vous pouvez faire pour contribuer au Québec, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider à contribuer. Puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de dynamisme, puis c'est prometteur. Honnêtement, là, c'est ce qui se passe présentement, c'est prometteur. Puis il y a vraiment des opportunités qu'on est en train de créer. Puis on a énormément, que ce soit du côté de la production, que ce soit du côté de la transformation, là, on a beaucoup, beaucoup de gens là, qui lèvent la main, là, puis qui veulent participer, qui veulent contribuer, puis profiter de ce momentum-là qu'on a. Là. Fait que ça laisse présager là, les mois et les années à venir là, qu'on va avoir des beaux moments dans tout le secteur bioalimentaire. Là.
Je prends deux secteurs. Là. Vous allez dire que c'est une marotte chez moi, là, mais la sériculture, vous avez plusieurs projets qui ont été soumis à des demandes de soutien gouvernemental là, pour du développement.
Oui, énormément. On a plusieurs, puis vous allez voir des belles annonces aussi qui s'en viennent parce qu'on s'entend. Ce qu'on s'est assuré de faire par le programme de la stratégie de développement des serres, c'est que oui, on a un objectif d'accroissement de 120-240 hectares. Là, on s'est assuré de pouvoir donner des moyens, que ce soit des plus petits qui sont vraiment d'un niveau local. On parle des grands tunnels, on parle des petites serres, que ce soit des moyens qui ont des plus grandes ambitions, que ce soit des grandes serres qui veulent juste développer encore davantage. On s'est assuré d'avoir différentes initiatives. On a trois principaux programmes là, qui viennent vraiment tout couvrir là, un peu l'accompagnement qui peut être possible dépendamment des profils de ces entreprises productrices-là. Et puis, on a de multiples projets qui ont été déposés au ministère au moment où on se parle, que ce soit des petits, des moyens, des grands, puis des belles annonces qui vont se faire. Mais au-delà des annonces, c'est tout le dynamisme que ça va apporter. Là, puis encore là, écoutez, ce qu'on a annoncé pour les serres, c'est assez colossal là, pour les prochaines années. Là. Puis les gens qui veulent faire pousser des légumes de serre, là, je peux vous dire une chose, là, qu'ils vont avoir toutes les opportunités du monde de faire.
Par contre, rien n'est jamais parfait, pourrait-on dire. Il y a des gens dans le secteur céréricole qui disent que le programme de soutien au développement des entreprises céréricoles, par exemple pour soutenir la robotisation, l'automatisation, la modernisation et tout ça, qu'il est trop limité strictement à la production et qu'il ne touche pas le secteur du conditionnement des fruits et légumes, classification, la mise en contenant, des choses comme ça qui, justement, permettraient une automatisation, robotisation très élaborée, là.
Ben, je vous dirais, dans un premier temps, c'est pas dans le mandat de la stratégie de développement des serres. Ce dont vous me parlez là, il y a toutes sortes d'autres programmes qui peuvent venir couvrir ça. J'ai au ministère, moi, j'ai développé des dizaines et des dizaines de millions de dollars de fonds qu'on a débloqués pour toute question d'automatisation, de robotisation. On a le ministère de l'économie qui écume la province de Québec partout sur le territoire pour trouver des projets d'innovation, des projets pour améliorer la productivité. Mon collègue ministre du Travail qui nous pousse aussi pour pousser nos entreprises à s'automatiser, tout ça. Fait que je peux vous dire, là, pas mal n'importe quelle entreprise au Québec là, qui a envie d'être plus efficace, d'être plus productive, là, si c'est pas à la porte du MAPAC qu'ils vont cogner, ça va être d'autres portes, là, mais ils vont trouver une oreille, ça, c'est certain, parce qu'on est engagé dans cette dynamique-là. Là.
La pisciculture, l'aquaculture, beaucoup de projets également dans ces domaines-là?
Bien, il y a des beaux projets, il y a des belles initiatives, puis on s'en est déjà parlé, ça fait quelques mois, M. Levac.
Oui.
Tu sais, la situation, c'est pas tant au niveau des moyens, puis des programmes, puis du soutien. Ce qu'on avait parlé, c'est que ça nous prend des entrepreneurs. Puis encore, la semaine passée, j'avais justement ma rencontre de la politique bioalimentaire avec tous les gens du milieu des pêches, puis de la pisciculture, puis on a pu parler en long et en large avec les gens pisciculture, aquaculture, puis identifier encore des obstacles, des choses qui pourraient être faites là pour les aider. On parle de délais ou au niveau des approbations environnementales, ces choses-là. Mais en bout de ligne, là, je vous dirais, M. Levac, là, ce qu'on veut faire, là, si on a besoin encore davantage d'accompagnement, si on veut, bien, nous, on est là. Les programmes sont là. Si ça leur prend un peu plus encore de soutien pour les mobiliser, les accompagner, les aider à se développer, encore là, le ministère va lever la main puis va être présent parce que l'objectif, là, c'est de doubler notre production aquacole là, au Québec. Là. Alors, pour que doubler ça, là, ça en prend des projets. Là. Fait que c'est sûr que on a nos gens de la bobine qui ont un très beau projet, là, mais ça en prend des projets comme ça au Québec là, pour continuer à développer. Puis on va tout faire. Comme je dis, l'argent est là, les programmes sont là. On va les accompagner, puis c'est ça. Ça nous prend des entrepreneurs qui veulent aller de l'avant aussi, puis qui veulent se servir de ces opportunités-là. Là.
Il y a aussi le programme d'admission accélérée de travailleurs qui pourraient devenir ici des immigrants reçus, des résidents permanents ici. Et il y a toute une liste d'emplois qui sont privilégiés là, pour ces postes à accès accéléré, pourrait-on dire. Est-ce qu'il est possible? Parce que dans le secteur agroalimentaire, globalement, on pense aux métiers de bouche et on dit qu'il faudrait ajouter d'autres métiers. Là. Il y a des métiers qui ne sont pas accessibles à ce programme d'accès accéléré à la résidence au Canada.
Ben, je vais être franc avec vous, M. Levac. Là. Les métiers que des gens veulent qu'on additionne à ces listes-là, ils sont très, très, très nombreux. Alors moi, comme ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation, vous pouvez être certain que je fais toutes les représentations possibles pour faire en sorte qu'on puisse avoir les travailleurs dont on a besoin. Mais en bout de ligne, là, il y a des politiques d'immigration au Québec, il y a des ententes qu'on a avec le gouvernement fédéral, et puis vous le savez autant que moi, vous avez assez d'expérience, là, que c'est pas des affaires qui sortent de sur une scène, là. Mais on fait toutes les représentations pour s'assurer là, que nos secteurs qui sont dans le besoin puis qu'on ne voit pas à court terme, moyen terme, là, avec l'environnement qu'on a au Québec, les besoins, les bassins de main-d'œuvre qu'on a, là, qu'on va finir par combler de façon appropriée tous les besoins qu'on a. Fait qu'on fait toutes les représentations possibles là, pour s'assurer qu'on se donne les moyens de, ultimement, de combler ces besoins-là. Là. Mais je ne peux pas vous présumer du succès qu'on va avoir dans ces quêtes-là là, à court terme. Là. C'est des représentations qu'on fait de façon continuelle. Moi, depuis que je suis en poste, là, j'ai commencé au printemps 2019 avec le ministre de l'Agriculture de l'Ontario, M. Hardeman, à faire des pressions importantes auprès du fédéral pour apporter des modifications dans la façon, tout le programme des travailleurs étrangers temporaires, les plafonds qui sont associés avec nos transformateurs. Déjà ici, là, on a lancé, ma collègue, Mme Giraud, la ministre de l'Immigration, a lancé là, un projet pilote là, au niveau de la transformation alimentaire. Puis on a toutes sortes d'idées aussi qu'on a pour chercher à s'arrimer avec le fédéral, puis faire nos choses et tout ça. Mais c'est une préoccupation de tous les instants là, de s'assurer qu'au fil des mois, des années qui s'en viennent, qu'on va avoir la main d'œuvre dont on va avoir besoin pour continuer à faire progresser nos entreprises.
En terminant, M. le ministre, là, une série de petits sujets là, sur lesquels j'aimerais avoir un commentaire rapide de votre part. La question de l'huile de palme utilisée dans la production laitière, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Première des choses, moi, c'est quelque chose que j'ai appris cette semaine. Ce que j'ai demandé au ministère, c'est de donner un état de situation, parce que ce que je comprends, c'est des pratiques qu'on a depuis une trentaine d'années. Il y a une réalité chimique qui est là dans l'estomac de la vache, si on veut, là, dans un de ses estomacs. Mais j'ai demandé d'avoir un état de situation. J'ai parlé au président des producteurs de lait du Québec. J'ai demandé lui aussi de sa part, tu sais, c'est quoi la situation et tout ça. Puis après ça, ben écoutez, c'est une question que si c'est pour soulever des enjeux. Un, s'il y a une question de santé des consommateurs québécois, là, je veux dire, on n'a pas besoin de faire ben des détours là, pour savoir qu'il y a des précautions à prendre. Si au-delà de la santé, là, c'est des pratiques, puis il y a des questions de santé animale, il y a des questions de tout ça, là, honnêtement, là, au moment où je parle, je suis pas le spécialiste de ce sujet-là. J'entends bien le devenir, par contre. Là. Alors, j'ai demandé au ministère, j'ai demandé aux producteurs de lait, chacun de leur côté, de me faire part de leurs enjeux, de la situation et tout ça. Puis après ça, ben on va suivre ça de très près, puis on va voir ce que le trajet tout ça va prendre pour la suite. Là.
Agropure, situation fragile, rentabilité très, très mince. Est-ce que ça vous inquiète?
Ben écoutez, chaque fois qu'on a une grande entreprise comme Agropure qui traverse des périodes plus difficiles, ben quand on dit inquiétude, il y a de l'inquiétude, mais en même temps, il y a des gens très compétents qui sont là pour diriger l'entreprise. Déjà, l'entreprise a posé des gestes qui sont significatifs pour aider à redresser la situation. Mais je peux vous dire que, un, nous, on est en contact avec l'entreprise, mais en même temps, que ce soit au niveau du ministère des Finances, du ministère de l'Économie, là, tous les partenaires, c'est une très grosse entreprise, la coopérative Agropure pour Québec, puis tout le secteur laitier, transformation laitière et tout ça. Fait que c'est certain que le gouvernement là, va accompagner Agropure là, dans les difficultés ou dans les défis. Au lieu de parler de difficultés, je dirais plus les défis. Et puis, s'il y a lieu, là, comme je vous dis, on est en discussion avec eux et tout ça. Puis, si Agropure... besoin davantage, si on veut, d'écoute et de soutien là, de la part du gouvernement du Québec, bien, le gouvernement du Québec va certainement être tout disposé à lui donner cette écoute-là. Là.
Une politique d'aménagement du territoire au Québec, on consulte actuellement. Est-ce qu'on peut penser à un affrontement politique de protection du territoire agricole versus aménagement général du territoire?
Bien, dans un premier temps, je dirais que la démarche de ma collègue des affaires municipales là, d'entreprendre les consultations pour une telle stratégie, là, ça a été salué... aux quatre coins du Québec, par tous les groupes. Alors, c'est plus dans ce contexte-là que je verrais. Écoutez, la réalité du territoire agricole, les impératifs de la protection du territoire agricole, en même temps, la réalité des territoires partout au Québec, c'est des choses dont on doit prendre acte, puis de revisiter ces lois-là, d'en faire une stratégie. Moi, je vois ça plus d'un sens de collaboration, puis d'un sens de mettre tout le monde au même diapason, là. Mais je salue cette initiative-là, parce que moi, depuis que je suis en poste, c'est des choses que j'entends parler beaucoup. La nécessité à un moment donné d'avoir un meilleur arrimage, une meilleure compréhension des impératifs pour tout le territoire au niveau de l'aménagement du développement. Là. Fait que je salue l'initiative de ma collègue. Le MAPAC va être très impliqué dans cette initiative-là. On a des comités en place pour s'assurer là, de donner toute l'information qui est nécessaire, de partager nos préoccupations, nos idées, tout ça. Là. Puis ça va se faire dans un processus là, de consultation puis de collaboration. Là. Je suis très, très positif par rapport à cette initiative-là. Là.
Deux sujets rapidement, là, en terminant.
Encore une fois. C'est une bonne chose que je vous parle. Vous n'avez des affaires à parler, c'est le fun.
Ça fait trois mois que je me fais une liste, là.
Ben oui, c'est bon. Appelez-moi plus souvent. J'aime ça écouter vos blogs.
Donc, les deux derniers petits sujets. Il y a toujours un embouteillage, si on veut, des porcs en attente, là, en très grande quantité, des porcs en attente sur les fermes. C'est inquiétant pour vous et il est possible que, éventuellement, Québec aide à ce qu'on évite l'euthanasie de troupeaux.
Honnêtement, M. Levacq, on suit ça pas mal à la journée, toute cette situation-là, mais ce qui se passe depuis plusieurs semaines, là, les acteurs, autant au niveau des producteurs et des transformateurs, travaillent vraiment, vraiment en étroite collaboration. Là, puis, si j'avais à vous rapporter un peu les derniers échanges que j'ai eu avec eux quelques semaines, bien, pour la première fois depuis des mois, on commence à voir une embellie, on commence à voir le soleil un peu à travers les nuages. Là. C'est encore loin en avant de nous, là. Mais ce qu'on remarque, c'est que tous les moyens ont été mis en place, là, que semaine après semaine, le poids des porcs diminue, la quantité des porcs en attente diminue. Et puis, les gens font preuve d'un optimisme contrôlé, un optimisme modéré. Mais aujourd'hui, on est dans une situation là où tout le monde dans la filière, là, ils ont vraiment bien, bien travaillé ensemble. Je vous le répète, il y a une question d'alimentation, il y a une question à un moment donné de, tu sais, les ventes des porcelets qui ont été faites, il y a une question de rediriger une partie des porcs vers d'autres juridictions au Canada. Ça a tout été fait de façon synchronisée, les producteurs, les transformateurs. Vraiment un grand ballet, si on veut, ensemble, là. Puis, ce qu'on voit, c'est que semaine après semaine, tranquillement, mais sûrement, là, c'est en train de payer. Alors, les gens sont encouragés de façon modérée. Là, les gens sont encouragés. On est dans une situation, je dirais, la meilleure depuis longtemps à ce niveau-là. Là. Alors, je suis optimiste, mais comme vous dites, pas un optimiste jovialiste de la part du ministre, là, mais un optimiste de quelqu'un qui suit ça à tous les jours, à toutes les semaines, puis qui parle à tout le monde, puis que ça s'en va dans la bonne direction.
Mais on n'est pas à l'abri d'accidents, par exemple, Red Deer en Alberta.
Non. Mais en même temps, vous savez à quel point là, le fait qu'on soit fait frapper de bonheur au Québec avec Yamachiche, là, ce qu'on a mis en place comme collaboration au Québec, là, au niveau de cellules de coordination nationale, puis la compréhension que les instances publiques ont de l'importance de ce qui se passe dans nos abattoirs, mais aussi de l'importance de toute la chaîne du vivant, là. Puis après ça, nos abattoirs, les gens mettent en place des procédures qui sont exemplaires là, au niveau des médecins, des infirmières, les tests et tout ça. Fait que le fait d'avoir très tôt eu l'espèce d'électrochoc là, qu'on a eu avec l'usine qui a dû être fermée pendant 2 semaines, là, ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, de la façon que les gens exécutent, les transformateurs exécutent, c'est assez exceptionnel. Puis quand ils arrivent, puis hop, il y a une petite nouvelle brèche qui s'ouvre à ce niveau-là, puis qu'on voit là que ça peut devenir problématique. Ils imposent des nouvelles règles au niveau de leur opération qui fait en sorte qu'honnêtement, encore là, on est toujours dans un contexte où la COVID peut tout le temps frapper, les éclosions, ça peut aller rapidement. Mais tout ce qui est fait, tout ce qui est possible d'être fait là, par les transformateurs, puis tout le monde, puis toujours en collaboration vraiment importante avec la CNSST, avec la santé publique, là, les gens font vraiment un travail exceptionnel. Alors, je vous dis, c'est sûr qu'on se croise les doigts tant que la mot juste de pandémie va être là, mais on fait un travail exceptionnel. Les gens font un travail exceptionnel.
Et la loi 77, elle va être adoptée avant la fin des travaux au printemps prochain, là?
Bien, écoutez, on a terminé l'étude article par article. Encore là, ça a été un grand travail de collaboration positif par rapport à l'impact que ça va avoir pour l'ITAC, pour toute la formation bioalimentaire au Québec. Puis, normalement, le projet de loi là, devrait être adopté une semaine ou 2 semaines après notre entrée le 9 mars au Parlement. Le projet de loi va être adopté très bientôt. Puis après ça, bien, écoutez, il y a un certain nombre de choses qui doivent être mises en séquence et tout ça. Là. Puis l'objectif, c'est que tout ça fonctionne puis que la prochaine année scolaire, le 1er juillet, si on veut là, que ça soit l'ITAC qui soit aux commandes au lieu d'une direction du ministère de l'Agriculture. Là.
Bien sûr, là, on parle de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Là.
En plein ça.
D'accord. Bien, Monsieur le ministre, merci beaucoup. Et puis, je vais suivre votre conseil. Je vais vous appeler plus souvent.
Bien, faites ça. Toujours un plaisir de vous parler, Monsieur Levacq.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Bonjour.
Ici Lionel Levacq. Le projet de loi 77 dont il vient d'être question vise à faire de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec une institution d'enseignement au même titre que les cégeps. Jusqu'à maintenant, l'ITA est une entité intégrée au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Au revoir.